Chapitre 66. C'était là qu'allait se décider le sort du monde. Les premiers jours de retraite avaient été pour César des jours d'effroyable lutte. Le bruit de sa défaite s'était répandu et le livrait à un mépris général. On lui refusait vivres et fourrages, et cela dura jusqu'à ce qu'il eût pris la ville de Gonfle en Thessalie. Dès lors, il se trouva dans l'abondance, à ce point que ses soldats, qui, depuis 5 mois, mouraient à peu près de faim, célébrèrent, grâce aux nombreuses amphores trouvées dans les caves de la ville, une bacchanale qui dura 3 jours. Enfin, comme nous l'avons dit, arrivé à Pharsale, César s'arrêta. Pompée établit son camp sur une hauteur, en face de celui des Césars. Cependant, là, le doute le prit. Il eut un présage et l'on sait l'influence qu'avaient les présages sur les événements du monde antique. En sortant du conseil où l'on venait d'arrêter le combat pour le lendemain et où Labiénus, commandant de la cavalerie, avait renouvelé le serment solennel de ne déposer les armes qu'après la chute complète de César, il rentra dans sa tente, se coucha et s'endormit. Alors il fit un rêve. Il rêva qu'il était à Rome, au théâtre, où le peuple le recevait avec de grands applaudissements, et qu'en sortant du théâtre, il ornait de riches dépouilles la chapelle de Vénus Nicéphore. Or ce songe, qui au premier abord semblait n'avoir rien que de favorable, pouvait cependant cacher un double sens. César était fils de Vénus. Ces dépouilles dont Pompée ornait la chapelle de Vénus n'étaient-elles pas ses propres dépouilles à lui? Toute la nuit, le camp fut troublé par des terreurs paniques. 2 ou 3 fois, les sentinelles coururent aux armes, croyant qu'on les attaquait. Un peu avant le jour, et comme on posait des gardes, on vit au-dessus du camp de César, où régnait le plus grand calme et le plus profond silence, s'élever une vive lumière qui vint fondre sur le camp de Pompée. 3 jours auparavant, César avait fait un sacrifice pour la purification de son armée. Après l'immolation de la première victime, le devin lui annonça que, dans 3 jours, il en viendrait aux mains avec l'ennemi. « Outre cette annonce, demanda César, vois-tu dans les entrailles quelques signes favorables ?»« Tu répondras à cette question mieux que moi, lui dit le devin. Les dieux indiquent un grand changement, une révolution des choses établies, le contraire de ce qui est à cette heure. Es-tu heureux, tu seras malheureux. Es-tu malheureux, tu seras heureux. Es-tu vainqueur, tu seras vaincu. Es-tu vaincu, tu seras vainqueur. » Ce ne fut point seulement dans les deux camps et autour des deux camps que se produisirent les prodiges. À Trales, il y avait dans le temple de la victoire une statue de César. Le sol d'alentour, déjà ferme par lui-même, était en outre pavé d'une pierre très dure. Malgré ce sol et par les interstices de la pierre, il sortit un palmier près du piédestal de la statue. À Padoue, Caius Cornelius, homme fort renommé dans l'art de la divination et ami intime de Tite Live l'historien, se tenait assis sur son siège augural et suivait le vol des oiseaux. Il sut l'instant de la bataille et annonça à ceux qui l'entouraient que l'engagement venait de commencer. Puis, se remettant à ses observations et ayant de nouveau examiné les signes, il se leva avec enthousiasme et en s'écriant « Tu triomphes, César !» Et comme on doutait de la prophétie, il déposa sa couronne et annonça qu'il ne la remettrait sur sa tête que quand l'événement aurait justifié sa prédiction. Et cependant, malgré tout cela, César s'apprêtait à lever le camp et à continuer sa retraite vers la ville de Scotus. Il s'effrayait de l'infériorité de ses forces. Il n'avait que 1000 cavaliers, Pompée en avait 8000. Il n'avait que 20 000 hommes d'infanterie, Pompée en avait 45 000. On annonça à César qu'il se faisait un certain mouvement dans le camp ennemi et que Pompée paraissait décidé à présenter la bataille. César réunit ses soldats. Il leur annonça que Cornificius, distant de 2 journées seulement, lui amenait 2 légions, que Sélénus avait autour de Mégare et d'Athènes 15 cohortes qui allaient se mettre en marche pour le rejoindre. Il leur demanda s'ils voulaient attendre ses renforts ou livrer seuls la bataille. Alors tous et d'une seule voix, ses soldats le conjurèrent de ne pas attendre et, tout au contraire, si l'ennemi hésitait, d'inventer quelque stratagème pour le décider à combattre. Au reste, ce qui donnait ce courage aux soldats de César, c'est que, depuis leur départ de Dyrrachium, César les avait constamment exercés et que, constamment, ils avaient eu l'avantage dans leur rencontre avec l'armée ennemie. N'ayant, comme nous l'avons dit, que 1 000 cavaliers à opposer aux 7 ou 8 000 cavaliers de Pompée, César avait choisi dans son infanterie légère les soldats les plus jeunes et les plus agiles. Il les mettait en croupe derrière les cavaliers et, au moment de soutenir la charge, les fantassins sautaient à terre et, au lieu de 1 000 hommes, les soldats de Pompée avaient tout à coup affaire à 2 000. Dans une de ces escarmouches, un de ses deux frères à l'Aubroge, qui était passé dans le camp de Pompée et avait été cause de la défaite de Dyrrachium, avait été tué. Mais, nous l'avons dit, Pompée avait évité jusque-là un engagement général. Le matin de la bataille de Pharsale, il était résolu d'attaquer. Quelques jours auparavant, en plein conseil, et comme Domitius venait de dire que tout sénateur qui n'avait pas suivi Pompée méritait la peine de mort ou tout au moins l'exil, comme il venait de donner au juge nommé d'avance 3 tablettes, l'une de mort, l'autre d'exil, la troisième d'amende, Pompée, mis en demeure de livrer bataille, avait demandé quelques jours encore. « As-tu donc peur ?» avait demandé Favonius. « Alors cède le commandement à un autre et va garder les bagages à la place de Caton. » Pompée avait répondu « La peur m'arrête si peu que je veux, avec ma cavalerie seule, enfoncer et détruire l'armée de César. » Et comme plusieurs qui, au milieu du délire général, avaient conservé la raison, demandaient à Pompée comment il s'y prendrait, « Oui, répondit celui-ci, je sais bien qu'au premier abord cela peut paraître incroyable, mais mon plan est des plus simples. Avec ma cavalerie, j'envelopperai son aile droite que je hacherai. Puis je prendrai l'armée en queue et vous verrez que, presque sans combat, nous arriverons à une victoire éclatante. » Alors la Biennuse, à son tour, pour confirmer ce que disait Pompée et pour redoubler la confiance du soldat, ajouta « Ne croyez pas avoir affaire aux vainqueurs de la Gaule et de la Germanie. Je sais ce que je dis, ayant eu part à cette conquête. Il reste peu de soldats de ces grandes batailles du Nord et de l'Occident. Une partie s'est couchée sur le champ de bataille même, l'autre a été enlevée par la maladie, soit en Italie, soit en Épire. Des cohortes entières sont occupées à garder des villes. Ceux que nous avons devant nous viennent des bords du Po et de la Gaule cisalpine. Ainsi, le jour où il plaira à Pompée de nous faire combattre, chargeons hardiment. » Ce jour-là était venu. Au moment où César faisait plier ses tentes, au moment où déjà les soldats chassaient devant eux les valets et les bêtes de somme, des coureurs de César vinrent lui dire qu'il se faisait un grand tumulte parmi les Pompéiens et que tout portait à croire qu'ils se préparaient au combat. D'autres arrivèrent bientôt, criant que les premiers rangs de Pompée se mettaient en bataille. Alors César, montant sur un tertre pour être vu et entendu du plus grand nombre possible, « Amis, cria-t-il, le jour est enfin venu où Pompée nous présente la bataille et où nous allons combattre, non plus contre la faim et la disette, mais contre des hommes. Vous avez désiré ce jour avec impatience. Vous m'avez promis de vaincre, tenez votre parole. Halte partout !» Puis il ordonna d'élever devant sa tente le drapeau écarlate, signal du combat. À peine les Romains l'eurent-ils aperçu qu'ils coururent aux armes. Et comme le plan de la bataille était fait d'avance et que chaque chef de corps avait reçu ses ordres, centurions et décurions conduisirent les soldats au poste désigné et, suivis de leurs hommes, chacun d'eux, dit Plutarque, prit sa place avec autant d'ordre et de tranquillité que si l'on n'eût arrangé qu'un cœur de tragédie.